Chapitre 10. Digression historique, partie 1. La lipophilie. Comme je l'ai déjà indiqué, cette façon d'appréhender les raisons pour lesquelles nous grossissons n'est nullement nouvelle. Elle remonte en fait à 1908, année où le spécialiste de médecine interne allemand Gustav von Bergmann proposa l'usage du terme lipophilie, qui signifie « amour de la graisse », afin d'expliquer pourquoi différentes parties du corps ne présentent pas la même propension à accumuler de la graisse. À titre d'information, la plus haute distinction accordée aujourd'hui par la Société allemande de médecine interne, la DGIM, est la médaille Gustav von Bergmann. D'ailleurs, ce livre audio présente essentiellement les idées de von Bergmann, augmentées des découvertes scientifiques postérieures à son époque. Von Bergmann aborda l'obésité avec simplicité. La considérant comme un trouble entraînant une accumulation excessive de graisse corporelle, il entreprit d'apprendre tout ce qu'il put sur la régulation du tissu adipeux. Ses observations l'amenèrent à conclure que certains tissus qui accumulaient la graisse avec avidité étaient manifestement lipophiles, tandis que d'autres ne l'étaient pas. Une caractéristique, nota-t-il, qui diffère non seulement d'un tissu à l'autre, mais également d'une personne à l'autre. Car de même que certaines parties du corps ont la faculté de produire des poils et d'autres non, et de même qu'il existe des individus dont le système pileux est plus développé que d'autres, certaines parties du corps ont tendance à accumuler de la graisse et d'autres non. Et il existe des individus plus gras que d'autres, car leur corps est plus lipophile. Ces derniers prennent facilement du poids et donnent souvent l'impression de ne rien pouvoir faire contre. À l'inverse, les personnes dont l'organisme n'est pas lipophile sont minces et ont du mal à prendre du poids, y compris lorsqu'elles font des efforts pour y parvenir. À la fin des années 1920, le concept de lipophilie de von Bergmann fut repris et défendu par Julius Bauer, professeur à l'Université de Vienne et pionnier de l'application de la génétique et de l'endocrinologie à la médecine clinique, à une époque où ces disciplines n'en étaient encore qu'à leur balbutiement. En ce temps-là, peu de médecins étaient en mesure d'imaginer la façon dont les gènes pouvaient transmettre à chaque individu des caractéristiques qu'il garderait toute sa vie, et notamment une prédisposition à certaines maladies. Bauer, qui en savait plus que quiconque sur cette relation entre gènes et maladies, consacra des efforts considérables à essayer de faire comprendre aux médecins américains les erreurs que recelait l'hypothèse de « l'appétit perverti » de Louis Newberg. Tandis que Newberg affirmait qu'à supposer que les gènes aient une action quelconque, ce dont il doutait fort, il ne pouvait s'agir que de transmettre éventuellement aux personnes obèses la pulsion incontrôlable de trop manger, Bauer expliquait que la seule façon logique dont les gènes pouvaient causer l'obésité était d'influer directement sur la régulation du tissu adipeux. Selon Bauer, c'était les gènes qui régulaient la lipophilie, et cette régulation déterminait, quant à elle, les sensations générales régissant l'absorption de nourriture et la dépense d'énergie. Bauer considérait qu'en cas d'obésité, le tissu adipeux fonctionnait d'une façon comparable à celle des tumeurs malignes. L'un comme les autres suivent leur propre programme, expliquait-il. Une tumeur cherche à croître, à se propager, et elle le fait indépendamment de la quantité de nourriture qu'absorbe la personne qui l'héberge, ainsi que de la quantité d'exercice auquel elle s'adonne. De même, le tissu adipeux d'une personne prédisposée à devenir obèse cherche à croître, à développer toujours plus de graisse, et il atteint cet objectif indépendamment de ce que peut faire le reste de son corps. Un tissu malade de lipophilie accapare les aliments consommés, y compris en cas de dénutrition, écrivit Bauer en 1929. Il fait barrage à la diminution de ses réserves de graisse, qu'il peut augmenter quels que soient les besoins du reste de l'organisme. On est en présence d'une sorte d'anarchie, le tissu adipeux vivant de façon autonome et ne s'insérant pas dans le fonctionnement, quant à lui très précisément régulé, de l'ensemble de l'organisme. À la fin des années 1930, la théorie de la lipophilie de von Bergmann et Bauer était plus ou moins complètement admise en Europe. Elle gagnait également du terrain aux États-Unis, où Russell Wilder de la Mayo Clinic écrivit en 1938 « Cette conception mérite qu'on la considère avec beaucoup d'attention ». Il a pourtant suffi d'une décennie pour qu'elle disparaisse. Les médecins et chercheurs européens qui avaient survécu à la Seconde Guerre mondiale et n'avaient pas fui le continent, contrairement à ce que fit Bauer en 1938, avaient des problèmes plus urgents à régler que de s'occuper de l'obésité. Aux États-Unis, une nouvelle génération de médecins et de nutritionnistes émergea après-guerre pour combler le vide ainsi créé, une génération qui adhérait pleinement à la logique de l'appétit perverti de Newberg. Peut-être parce que celle-ci allait dans le sens des idées préconçues qu'elle nourrissait sur le prix à payer pour la gloutonnerie et la paresse. Aussi compréhensibles qu'aient pu être les sentiments anti-allemands qui avaient cours dans la communauté médicale de l'après-guerre, ils n'ont sans doute pas arrangé les choses. Les grands spécialistes qui écrivirent sur l'obésité dans les États-Unis de l'après-Seconde Guerre mondiale firent comme si la littérature médicale de langue allemande n'avait pas existé, alors que c'était des Allemands et des Autrichiens qui avaient jusque-là initié et mené la plupart des recherches importantes dans les domaines de la nutrition, du métabolisme, de l'endocrinologie et de la génétique, autrement dit dans l'ensemble des domaines concernant l'obésité. Parmi ces grandes figures, la seule exception notable fut Hildebrandt, elle-même allemande, qui se référa abondamment aux écrits d'avant-guerre. Et une fois que les psychologues se furent emparés de l'obésité, au cours des années 1960, et qu'elle eut officiellement acquis le statut de trouble de l'alimentation, une tournure polie pour ne pas dire défaut de caractère, on vit s'évanouir définitivement tout espoir que les spécialistes du sujet puissent s'intéresser à la façon dont le tissu adipeux était régulé. Il y eut néanmoins après-guerre quelques médecins férus de recherche pour parvenir à des conclusions similaires à celles de von Bergmann et de Bauer. Hildebrandt, qui resta jusqu'à la fin des années 1960 l'autorité absolue dans le domaine de l'obésité infantile, continua à penser que la cause probable de l'obésité était une anomalie affectant la régulation du tissu adipeux. Et elle ne cacha pas sa stupéfaction face au désintérêt complet de ses collègues à l'égard de cette thèse. Jusqu'en 1968, Jean Mayer lui-même attira l'attention sur le fait que différents types d'organismes et de teneurs en tissu adipeux étaient associés à différentes concentrations d'hormones dans le sang et suggéra que de légères différences dans les concentrations hormonales relatives ou absolues pouvaient expliquer pourquoi certains grossissent tandis que d'autres restent minces sans effort. Pour reprendre la terminologie de von Bergmann et de Bauer, il pensait que ces concentrations hormonales pouvaient déterminer si le tissu adipeux serait ou non lipophile. Mais Mayer ne s'intéressa pas aux écrits de von Bergmann et de Bauer, ou, s'il le fit, omit de mentionner cette source. Après-guerre, l'expert le plus clairvoyant à l'égard des causes de la prise de poids s'avéra être l'un des plus grands spécialistes des hormones et des troubles d'origine endocrinienne, Edwin Astwood, professeur à l'université Tufts. En 1962, Astwood occupait le poste de président de la Société d'endocrinologie des États-Unis lorsqu'il tint une conférence intitulée « L'hérédité de la corpulence » à l'occasion de son assemblée annuelle. Dans cette intervention, il s'attaqua à l'idée selon laquelle l'obésité serait causée par la suralimentation, idée qu'il intitula « Prima de la gloutonnerie », faisant une des meilleures descriptions que je connaisse de la façon dont on peut aborder la question de l'obésité en se concentrant sur la graisse et le tissu adipeux, en ne s'occupant que de preuves tangibles, ce qui est toujours une bonne idée, et en le faisant sans idée préconçue, ce qui est également une bonne idée. Le premier point qu'aborda Astwood était que la prédisposition à grossir ou à rester mince était à l'évidence déterminée pour une grande part par nos gènes, et constituait de ce fait un héritage biologique se transmettant de génération en génération. Si les gènes déterminent notre taille, la couleur de nos cheveux et la longueur de nos pieds, expliqua-t-il, pourquoi ne pourrait-on pas penser que c'est également l'hérédité qui détermine notre corpulence ? Astwood posa alors la question de savoir comment nos gènes régissent notre corpulence. Comme j'y reviendrai sous peu brièvement, en 1962, la biochimie et la physiologie avaient grandement contribué à établir la façon exacte dont la graisse corporelle est régulée. Et Astwood, comme von Bergmann, Bauer et Brou avant lui, considéraient que cette régulation fournissait une réponse logique à la question. Des dizaines d'enzymes et une foule d'hormones influant sur l'accumulation de graisse avaient d'ores et déjà été identifiées, expliqua Astwood, certaines servant à libérer la graisse du tissu adipeux, d'autres à l'y introduire. Et en fin de compte, la quantité de graisse stockée par n'importe quel individu ou en n'importe quel endroit du corps humain était déterminée par l'équilibre de ses forces régulatrices concurrentes. Maintenant, supposez un instant qu'apparaisse une anomalie dans l'un ou l'autre de ces processus de régulation, dit Astwood. Supposez que la libération de graisse ou sa combustion soit entravée d'une façon quelconque et que le dépôt ou la synthèse de la graisse soit stimulé. Quelles pourraient en être les conséquences ? Sachant d'une part que le manque de nourriture augmente la sensation de faim et d'autre part que la graisse est la nourriture principale de notre organisme, il est aisé d'imaginer qu'un dérangement, même mineur, pourrait déclencher un appétit vorace. Je crois probable que la faim que ressentent les personnes obèses est si féroce et si dévorante que des médecins de constitution naturellement minces ne peuvent pas s'en faire une idée adéquate. Cette théorie permettrait d'expliquer pourquoi les régimes sont si rarement efficaces et pourquoi la plupart des personnes en surpoids sont si malheureuses lorsqu'elles suivent un régime. Elle prendrait également en considération nos amis psychiatres, très préoccupés par cette nourriture qui va jusqu'à s'immiscer dans les rêves de leurs patients obèses, mais qui ne seraient pas omnubilés par des pensées tournant autour de la nourriture si son organisme criait famine. La faim est une sensation si terrible que dans le livre de l'Apocalypse, elle figure l'un des trois pires fléaux de l'humanité, aux côtés de la guerre et de la mort. Ajoutez maintenant à l'inconfort physique les tensions émotionnelles engendrées par le fait d'être en surpoids, les railleries et les sarcasmes émanant de gens minces, les critiques constantes, les accusations de gloutonnerie et de manque de volonté, ainsi qu'un sentiment permanent de culpabilité, et vous obtiendrez des raisons suffisantes pour expliquer les troubles émotionnels qui préoccupent les psychiatres. Pour comprendre les mécanismes de l'obésité et de la prise de poids, il nous faut comprendre ce qu'Astwood avait saisi et que les spécialistes de l'obésité avaient commencé à admettre avant que la Seconde Guerre mondiale ne mette un terme à ce débat. La gloutonnerie, la suralimentation, et la paresse, le comportement sédentaire, sont les effets secondaires d'un dérangement même minime du système de régulation, entraînant un détournement important de calories vers le tissu adipeux, puis leur stockage dans ce même tissu. Il se peut que celles et ceux d'entre nous qui sont affectés par un tel dérangement ressentent un fort besoin de consulter un psychiatre. Mais ce n'est pas à cause de ces difficultés émotionnelles qu'une personne prend trop de poids. C'est à cause de l'augmentation inexorable de son poids, ainsi que de la sensation de faim, des railleries, des accusations de gloutonnerie et de manque de volonté auxquelles elle est confrontée, qu'elle souffre de difficultés émotionnelles.